Justement, c'est intéressant l'idée de redécouvrir parce que nous allons regarder ce matin un passage que vous, la plupart d'entre vous devez très bien connaître, mais qui est vraiment capital pour la foi chrétienne, dans Jean 19 et 20. Alors, on pourrait dire que c'est un peu hors saison parce que c'est plutôt l'histoire de Pâques, mais en fait, c'est pas grave. Parce que ce que nous voyons dans le passage de ce matin mérite d'être étudié et regardé à n'importe quel moment de l'année. Justement, on a évoqué la mort de Jésus, le sacrifice. Justement, des milliers de personnes ont été exécutées par crucifixion au premier siècle sous les Romains. Mais qu'est-ce qui fait que l'une de ces morts, soit celle de Jésus, traverse plus de deux millénaires et soit encore discutée et débattue aujourd'hui? Pourquoi une croix, engin de torture, serait l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes? Et pourquoi la croix est devenue l'un des symboles les plus connus, les plus reconnus de la planète? Une seule réponse, la résurrection. Jésus a vaincu la mort pour une nouvelle vie dans un nouveau corps. Partout à Jérusalem, on a crié « Il est vivant ». Pour constater un événement tout nouveau, quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. Bon, la résurrection, parlons de la résurrection de Jésus, il y a eu d'autres événements semblables, non? Non! Non, c'est unique! Quelque chose d'incroyablement nouveau s'est introduit dans l'existence humaine. Un nouveau jour, un nouveau monde, ça c'est notre titre de ce matin, et c'est ce que nous allons regarder. Donc, en quoi la résurrection de Jésus est le commencement de quelque chose de tout nouveau? Regardons ça. Notre passage de ce matin donc, est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 19 et 20. Et ce qui est intéressant par rapport à ce passage, c'est qu'il s'agit essentiellement d'un récit historique. Il ne contient pas de grands enseignements, aimez-vous les uns les autres, ni d'enseignements pratiques, nous disant comment réagir par rapport à telle ou telle situation. Il y a juste les faits. Donc, on va lire le passage en commençant vers la fin de Jean 19. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait été enseveli. Comme c'était pour les Juifs le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors, elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qui Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombeau, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée où on l'a mis. » Bon, avance rapide de quelques heures, Marie retourne au tombeau. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu ? » « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-il, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Pourquoi pleures-tu ? Lui demanda Jésus. Qui cherches-tu ? Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabouni, ce qui veut dire maître. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur rapporta tout ce qu'il lui avait dit. Donc, comme j'ai dit, dans ce passage, on relate les faits. Oui, ce sont bien des faits. La mort et la résurrection de Jésus sont d'ailleurs les événements quasiment les mieux prouvés de toute l'histoire. Ah bon ? Mais mon voisin me dit, non, mais c'est de la légende, il n'y a aucune preuve. Si. Bon, je n'ai pas le temps de vous étaler toutes les preuves qui existent, mais il y en a. D'ailleurs, chez Agapé, nous avons dispo quelques livres que si vous avez envie de faire des recherches, on en a même qui est quasiment une encyclopédie hein, avec tous les détails. Donc ça, vous pouvez regarder si vous avez envie. Donc, regardons les événements du passage en deux temps. Bon, première partie. Jésus est mort, exécuté sur une croix et il est placé dans un tombeau. Son enterrement se fait à la hâte. Parce que c'est l'après-midi et le sabbat va commencer au coucher du soleil. Et on ne peut rien faire une fois que le sabbat a commencé. Hein? Donc il faut absolument terminer toute la préparation du corps et la mise au tombeau avant ça. Donc on choisit même un tombeau qui est tout prêt pour ne pas perdre de temps. L'histoire reprend le surlendemain, le dimanche matin, parce que rien ne se passe pendant le sabbat. Marie va au tombeau et découvre qu'il est ouvert, que la grosse pierre qui fermait l'entrée a été roulée et le corps n'est plus là. Panique à bord. Marie court voir les disciples dire qu'on a pris le corps et qu'on ignore où il se trouve. Justement, les détracteurs du christianisme ont eu des théories aussi de ce genre, que quelqu'un aurait volé le corps. Mais en fait, ça ne tient pas debout. Parce que qui aurait volé le corps ? Si c'était les Romains ou les chefs religieux juifs, mais ils n'en avaient aucun intérêt. Parce que pour donner un coup mortel à ce mouvement qui démarre et qui les embêtait autant, il leur suffit qu'ils montrent le corps. Et c'était fini. Certains ont pensé que les disciples auraient bougé le corps pour faire croire à une résurrection qui n'a pas eu lieu. Mais ça aussi, ça ne tient pas debout. Parce que la plupart des disciples sont morts martyrs parce qu'ils prêchaient Jésus ressuscité. Ils seraient donc morts pour quelque chose qu'ils savaient faux. Autant mourir pour défendre l'existence du Père Noël. Bon, suite de l'histoire. Marie retourne au tombeau, qui est toujours vide, et elle pleure. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi le corps a disparu ? C'était déjà terrible qu'on ait mis Jésus à mort, et maintenant on aurait volé son corps. Puis Marie parle avec un homme qu'elle ne reconnaît pas. Elle reprend sa théorie que quelqu'un aurait pris le corps et elle demande à cet homme si c'est lui. Et Jésus prononce son prénom, Marie. Et elle le reconnaît tout de suite. Pourquoi Marie n'a pas reconnu Jésus? On n'est pas sûr. De nombreux experts pensent que Jésus, une fois ressuscité, qu'il avait une apparence différente, changée. Et que ce serait peut-être pour ça. Parce que souvenez-vous, Marie n'est pas la seule à ne pas reconnaître le Jésus ressuscité. Les disciples du chemin d'Emmaüs, oui. Eux, ils ne l'ont pas reconnu non plus. Donc, d'ailleurs, en lisant le reste du chapitre 20 de Jean, on constate plusieurs réactions au tombeau vide. Bon, déjà, Marie, elle n'a même pas l'idée que Jésus pourrait être ressuscité. Sa seule idée, c'est qu'on a bougé, peut-être même volé le corps. Jean, donc auteur de l'Évangile, lui, a une autre réaction. Averti par Marie du tombeau vide, lui et Pierre courent. Ils partent en courant pour voir eux-mêmes. Donc, toujours en Jean 20, au verset 8 et 9, on voit « Alors, l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier, ça c'est Jean, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter comme l'avait annoncé l'Écriture. » Donc Jean, en voyant le tombeau vide, il comprend et croit. Cinq petits mots, il vit et il crut. Bon, c'est plutôt résumé, n'est-ce pas? Bon, moi je l'imagine se dire quelque chose comme « C'est pour ça! Je comprends maintenant !» Bon, Thomas, lui, encore une réaction différente que vous connaissez très certainement. Les autres disciples lui racontent que Jésus est vivant, mais il veut pas leur croire. Il dit même qu'il ne croira que s'il met le doigt dans les trous, dans les mains de Jésus, etc. Chose intéressante, Jésus ne lui reproche pas ça. Voilà ce qui se passe quand Jésus revoit Thomas. Il dit à Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Trois réactions différentes au tombeau vide. Et ça, c'était les proches de Jésus. Quelle est votre réaction au tombeau vide? Au fil de deux millénaires, de nombreuses personnalités ont prétendu que la résurrection de Jésus était quelque chose de ridicule, de fou. Mais en fait, l'apôtre Paul est un peu d'accord avec eux quand il dit en 1 Corinthiens 17:17, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Si la résurrection n'est pas vraie, nous sommes dans l'illusion, comme des fous. OK. Revenons à notre titre pour ce matin, un nouveau jour, un nouveau monde. C'est vrai, ça? En quoi vivons-nous une nouvelle époque? Un nouveau monde. Bon, déjà, il y a la remise de du calendrier à zéro, à l'an zéro. Bon, ça signifie pour la société qu'une nouvelle ère avait commencé. Alors, on pourrait dire que on avait fait ça à cause d'une légende, mais quand même, c'est énorme de remettre le calendrier à l'an zéro. Donc ça veut dire qu'il y avait énormément de monde qui était d'accord qu'à partir de Jésus, tout était changé et tout était nouveau. Et la résurrection a amené au moins trois grandes nouveautés. Première nouveauté, une vie nouvelle. Jésus vivant une vie nouvelle, une vie ressuscitée, peut transmettre cette vie. Nous voyons en 1 Corinthiens 15, 45, le dernier Adam, titre souvent utilisé pour Jésus, pour le Christ, est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Et il y a même deux aspects de cette vie nouvelle. Jean cite Jésus en Jean 10, 10. « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Donc, premièrement, la résurrection amène la vie là où il y avait la mort. La vie vainc la mort. Il s'agit de la vie éternelle, a priori la vie plutôt après la mort, et c'était nouveau à l'époque. Enfin, ça faisait pas. Tout le monde n'était pas d'accord, en tout cas, que le croyant vive même s'il meurt. C'est pas étonnant, par exemple, que les Sadducéens, qui étaient un parti, un courant de théologie juive, ne croyaient pas à la vie après la mort. Donc, par sa résurrection, Jésus inaugure la vie nouvelle. Mais pour vivre cette vie éternelle, nous ne sommes pas obligés d'attendre la mort. Ça, c'est le deuxième type de vie nouvelle, la vie abondante, la vie en abondance, dans une relation avec Jésus, aujourd'hui, maintenant. Et en réalité, la vie éternelle commence aujourd'hui. Et c'est une vie nouvelle qui est souvent surprenante. Imaginez le Christ ressuscité vous parlant personnellement, vous appelant par votre prénom. Comment vous répondriez-vous? Marie a reconnu Jésus quand il a appelé de son prénom. Et il est dit, Jésus appelle ses brebis par leur nom. Deuxième grande nouveauté, amenée par la résurrection, une compréhension nouvelle. Une fois que Jésus a été ressuscité, ses disciples ont soudainement compris. Il est dit plusieurs fois dans les évangiles que les disciples n'avaient pas compris ce qui pourtant avait été annoncé par le prophète. Que le Messie allait venir, allait mourir pour nos péchés et allait ressusciter. En voyant Jésus revenu de la mort, ils ont compris les Écritures et un certain nombre de grandes vérités spirituelles. Troisième nouveauté amenée par la résurrection, une puissance nouvelle. Verset 22, « Il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit Saint. » Bon, ce n'est pas la première fois que je vous parle de la vie par la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la résurrection, c'est la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, qui, à partir de ce moment-là, nous est transmis. Bon, ok, la résurrection de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre vie de tous les jours? Par sa mort et sa résurrection, Jésus a effectué notre pardon, et la résurrection est la preuve qu'il a bien le pouvoir de le faire. Bon, pour bon nombre de chrétiens, c'est plutôt le déclenchement ou le début de la foi. Ok, mais on est nombreux à ne plus être débutants dans la foi aujourd'hui, donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui vivons une relation avec Dieu depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis quelques décennies? En quoi la résurrection touche encore notre vie de tous les jours? J'ai lu un article très intéressant citant l'archevêque anglican du Pays de Galles qui a parlé de ce que lui de comment on peut être touché par ce que lui appelle des moments de résurrection. Et ce qu'il entend par là, ce sont des situations où nous voyons Dieu clairement à l'œuvre avec puissance. Et ça peut changer notre vie. Bon, un exemple que nous avons vu récemment, dernièrement, j'ai un témoin, on a assisté à une rencontre où on a entendu le témoignage d'un évêque copte égyptien qui a rappelé les 21 chrétiens coptes qui ont été tués par l'État islamique en 2015. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire. Il parle de la réaction de leur famille, des familles des victimes, qui a été de déclarer l'amour et le pardon. Voilà. Ça, c'est une démonstration de la puissance de Jésus, de sa résurrection dans la vie des chrétiens. Une puissance nouvelle. Dieu nous donne sa puissance pour aimer, pour pardonner, même face à la haine et du mal. La résurrection amène aussi la liberté que nous vivons au quotidien. Le pardon que la résurrection a assuré nous libère de la puissance du péché aujourd'hui. Nous avons, par le Saint-Esprit, désormais la puissance de résister au péché et de faire le bien. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché. La résurrection amène aussi l'espoir. C'est un rappel quotidien que nous avons de l'espoir. De l'espoir par rapport à notre destinée éternelle, mais pas uniquement. Nous avons l'espoir qui vient du fait que Dieu est aux commandes et qu'il s'occupe de nous, même si les choses semblent aller mal. Nous pouvons avoir confiance qu'il sera avec nous et qu'il fera opérer sa solution. Et la résurrection amène la relation. La résurrection a rendu possible la relation directe avec Jésus. Sa mort a résolu à enlever le blocage du péché, et sa résurrection veut dire qu'il est vivant aujourd'hui, et donc nous pouvons avoir une relation avec lui. C'est plutôt difficile d'avoir une relation avec quelqu'un qui est mort, n'est-ce pas? Donc on peut se rappeler tous les jours que grâce à la résurrection, Jésus est vivant. Et nous pouvons vivre une relation quotidienne avec lui. Bon, résumons. La résurrection de Jésus est un événement qui a tout changé. Tout changé. Pour nous et pour le monde. Cet événement a amené au moins trois grandes nouveautés pour le monde. Une vie nouvelle, éternelle, mais aussi quotidienne dès maintenant. Une compréhension nouvelle des Écritures et de grandes vérités spirituelles. Et une nouvelle puissance, le Saint-Esprit qui vient vivre en nous, chrétiens, et nous donne sa puissance. La résurrection touche vraiment notre vie chrétienne de tous les jours. Elle amène non seulement la puissance pour aimer, pour pardonner, mais aussi la liberté de l'emprise du péché et l'espoir d'un meilleur avenir, non seulement après la mort, mais pour toutes les difficultés que nous pouvons vivre aujourd'hui. La puissance qui a ressuscité Jésus de la mort la plus horrible, qui a vaincu la mort elle-même pour toujours, est en nous, est à disposition pour nous, pour vivre la vie chrétienne, pour nous rendre capables d'aimer, de pardonner. Et ça, ça mérite qu'on y pense tous les jours, je pense. En effet, notre sujet de ce matin semblait un peu hors saison, à l'approche de Noël, mais finalement non. Parce que ça nous permet, en pensant à la venue de Jésus, de nous rappeler aussi pourquoi il est venu. Un nouveau jour, un nouveau monde.